vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 47. À moi les bellâtres du théâtre, chers amis, bonjour. Le rideau rouge de velours trouble s'ouvre, la poudre des rêves s'abat comme la foudre sur un cube noir. Nous sommes à Strasbourg et des passionnés de théâtre, tels des peaux rouges sur les planches bougent. Ils vont recoudre la fiction et la réalité, un peu de poudre de perlimpinpin au nez, avant de s'auto-dissoudre dans cette belle émission de radio. Vous l'avez bien connu.
Bonjour Catherine Besançon.
Bonjour Ambroise Perrin, merci de m'avoir invité dans cette belle émission.
Dites-moi, d'où vous vient cette passion du théâtre ?
Ah, le théâtre, ça fait 30 ans, 40 ans que je fais du théâtre parce que c'était au début comme un échappatoire par rapport à mon métier. Mais c'est aussi parce que j'ai lu un jour cette belle phrase de Brecht qui disait « On peut vivre sans théâtre, mais on vit mieux avec ». Et comme ça, ça m'est venu. Alors d'abord, j'ai joué, bien sûr, comme beaucoup d'élèves au lycée, hein, La Leçon, La Cantatrice Chauve, Bobos de Roussin. On a joué même un Phédo en troisième. Et puis donc, c'était une passion. J'ai même pensé présenter le concours d'entrée du TNS, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait le préparer. Et comme je commençais mes études de médecine, je n'ai pas pu me lancer là-dedans. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir fait du théâtre, hein, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Mais enfin, on en parlera peut-être plus tard.
Voilà, alors je voulais vous demander quelles étaient vos autres passions à part le théâtre.
Ah, j'ai tant de passions. Alors, la gastronomie, bien sûr, mais la gastronomie normande, parce que je vais souvent en Normandie, sur les traces de Madame Bovary.
Seriez-vous normande, par hasard ?
Un petit peu normande, avec un nom comme le mien, Besançon, bien sûr, c'est un...
Mais c'est votre nom de femme mariée ?
Oui, mais...
Et votre nom de jeune fille ?
Ah là là, écoutez. Umperniedertulschlofen. Non, non, je suis alsacienne pur sucre, mais avec des ancêtres normands, des vikings qui avaient débarqué, qui avaient un petit peu, d'ailleurs, mon grand-père, il avait la même corpulence que Flaubert qu'on voit sur la photo de Nadar. Voilà. Mais vous savez, les Alsaciens, c'est que des mélanges. Hein. Donc, moi, je m'appelle Sanson, net, mais j'aurais pu m'appeler Belfort ou Obersuffelniederweiersheim, ce qui aurait été bien aussi. Mais je m'appelle Catherine. Mais Catherine, c'est quand même le plus beau prénom des Strasbourgeois.
Oui.
Hein, c'est, voilà, on a la belle Catherine, la belle Strasbourgeoise. Et puis, bien sûr, notre chère mère de Strasbourg, Catherine. Donc, voilà. Donc, oui, je suis une Alsacienne. Et alors, mes passions, eh ben, c'est l'opéra aussi, mais... je me promène souvent, j'organise des voyages, je rencontre des gens très importants. Alors, ce n'est pas le Rotary Club, c'est beaucoup plus chic et plus intello, ça s'appelle l'Académie Rhénane. Voilà, je fais beaucoup de choses qu'on pourrait détailler comme cela, mais quand même, c'est le théâtre qui m'a le plus pris de passion en dehors de mon métier d'anesthésiste.
Alors, revenons au théâtre. Quelle pièce montez-vous actuellement ?
Ah, alors, je monte une pièce que... comment dire ? Ça sera ma dernière pièce.
Et donc, dommage.
Ben oui, quand même. Non, mais il y a des fois, parce que j'ai quand même passé ma vie à naviguer entre l'envie de jouer et l'envie de mettre en scène et de faire les deux. Et alors aujourd'hui, avec l'actualité MeToo, et puis parce que je suis une grande lectrice de Jean Genet, et parce que la roue tourne et tout, je vais monter Hamlet et je vais jouer moi-même Hamlet. Et je cherche un beau garçon pour jouer Ophélie, hein, qui sera tout nu dans un cercueil de verre et qui descendra dans l'eau sur la Seine. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut mettre un grand bassin, mais je vais monter Shakespeare parce que c'est quand même... Alors, Shakespeare, mais comme c'est un peu long et que les gens, les spectateurs, au bout de 2 heures ou 3 heures, parce que je joue dans des théâtres où on est mal assis... On va, alors comment dire, pas le réécrire, et on va pas faire de coupe, je déteste faire des coupes dans une pièce, mais on va choisir une traduction qui soit autre que celle de François Victor Hugo. Vous connaissez l'anecdote, Ambroise, hein, le fils de Victor Hugo qui dit « Papa, je veux écrire des pièces de théâtre, je veux écrire des romans ». Je veux écrire comme toi de la poésie, la légende du siècle, moi je vais faire la légende de l'univers et tout ça. Et Victor Hugo, il dit, oui mon fils, c'est une bonne idée. Mais d'abord, il faut que tu fasses tes classes, tu vas traduire Shakespeare. Bon, ça lui a pris 30 ans, c'était rigolo, et donc du coup, il n'a pas fait de concurrence à son papa. Mais enfin, donc, je vais monter Hamlet.
J'ai entendu dire que vous montiez du Balzac, c'est pas...
Alors, aussi Balzac, mais... Oui. Moi, j'aime bien Balzac parce qu'il plantait des ananas. Et donc, les ananas en Alsace ou même à Paris, ça ne pousse pas vraiment parce que Balzac, à l'époque, pour faire fortune, parce qu'il avait besoin de beaucoup d'argent,
oui,
parce
toujours,
qu'il dépensait.
Toujours des dettes, oui.
Oui, il avait des dettes. Et donc, il a voulu planter des ananas. Et l'hiver a été rude. Hein, ce n'était pas encore le changement climatique. Et donc, pour rembourser son éditeur, il a dit, bon, allez, hop, je fais vite une petite pièce de théâtre. Ça s'appelle Le Faiseur, d'ailleurs.
Oui, oui.
Alors, ne pas confondre avec Le Faiseur de théâtre.
Hein, non.
Voilà, Le Faiseur. Et c'est une pièce, effectivement, que je vais monter au Cube Noir. Hein, c'est un endroit très sympathique.
Et vous n'allez pas ailleurs encore?
Oh, je vais tourner. On fait une tournée.
Une tournée internationale.
Internationale. Oui, voilà, on va jouer à Kiel. Ah oui, oui, oui.
Ah bon?
Ah oui, oui, oui. Oui. Dans l'ancien cinéma blow-up, où les copains, quand j'allais à l'école, m'emmenaient de force pour voir des films un tout petit
vous
peu
érotiques. Vous dites ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Hein.
Non, mais j'aimais bien ça, oui, je dois avouer, oui, oui. Mais le théâtre, c'est une passion, mais bon, j'ai envie de faire d'autres choses. Écoutez, je vais vous dire un secret, puisqu'on est à la radio, Ambroise. J'ai écouté votre émission la semaine dernière, là, vous aviez Dominique Gouillard qui joue, du cinéma, un petit peu, et elle a un côté très théâtral aussi, et en plus, elle écrit des romans policiers. Et je me suis dit, pourquoi, en tant que médecin anesthésiste, je n'écrirais pas un roman policier avec un crime parfait. Les auditeurs peuvent réécouter l'émission en podcast sur Radio J. Hein,
alors, vous allez nous révéler des secrets.
Oui, je vais vous dire... il faut réécouter... alors, ça s'appelait « Alors, tout l'or t'adore », la semaine dernière. Et donc, cette semaine, je vais vous dire peut-être un truc de roman policier, le crime parfait. Alors, chez Shakespeare... on versait le poison dans l'oreille. Dans l'oreille. Parce qu'une fois qu'il est dans l'oreille, on ne peut plus recracher, ça glisse et tout. Et c'est pour ça qu'il dormait assis. C'est aussi parce qu'il mangeait comme des trucs et après pour digérer. Mais et pour pouvoir sortir l'épée et tout. Et donc, chez Shakespeare, on meurt en mettant, ou alors le curare ou le poison dans la pointe, ou alors à la fin de Hamlet, bien sûr, l'échange avec sa mère, du calice avec le poison et tout. Non, alors, bien sûr, moi, en tant qu'anesthésiste, j'ai tous les produits qu'il faut. Et c'est une question de dose. Il y a des gens qui sont drogués à l'eau.
Est-ce que vous pourriez nous donner des recettes?
Oui. Alors, je ne sais pas si ça peut tomber sur...
C'est juste entre nous. Hein.
Oui, juste entre nous. Alors, d'abord, je voulais dire que la drogue à Marmottan, par exemple, le professeur Schwarzenberg, il avait des patients qui étaient drogués au chocolat, qui mangeaient 3 kilos de chocolat par jour, et s'ils ne le mangeaient pas, ils étaient en crise. Et une dame... qui avait bu, et ça m'avait impressionné, 10 litres d'eau par jour. Et
oui,
donc moi,
beaucoup,
en tant que femme de théâtre, je me disais, je pourrais faire ça. Alors, sur scène, quelqu'un qui passe son temps, parce que sur scène...
C'est un peu difficile quand même de boire 10 litres d'eau sur scène.
Alors, sur scène, on triche. Quand vous avez le héros qui boit ses petits verres de whisky, on sait que
c'est pas du whisky.
Que c'est du jus de pomme.
Exactement.
Sauf le jour de la dernière, on lui met du vrai whisky et il est bourré à la fin de la pièce.
Ça, il ne faut pas le dire non plus. Hein.
Voilà, ça, c'est des petits trucs de théâtre. Mais autrement, ces 10 litres d'eau, on peut avoir un faux tuyau qui coule. Enfin, on peut faire semblant. C'est comme au cinéma, quand les garçons font pipi, il y a un petit tuyau qui verse de l'eau et tout. Mm-hmm. Donc, le crime parfait, c'est de mettre... dans un produit, dans la nourriture ou dans les boissons, il y a des produits qu'on ne décèle pas.
C'est ça, il faut que ce soit indétectable.
Voilà. Alors maintenant, avec la police scientifique et tout, ils arrivent vraiment à trouver des trucs, sauf s'ils n'ont pas de soupçons. Et alors, avec la famille, vous vous dépêchez, vite, vous cramez le cadavre. Hein. Tout de suite, à l'incinération, comme ça...
Oui, il n'y a plus de traces.
C'est difficile dans un os de retrouver, voilà, et tout. Mais le problème, c'est justement comment se débarrasser du cadavre. Alors là, je vais vous dire un truc.
Ah bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Eh bien, il vous faut un copain un peu écolo, bio. Alors, à Strasbourg, on n'a que ça. Hein. Donc, si possible, éleveur de hamster d'Alsace ou de grands hamsters.
Oui.
Et si votre copain il fait du cochon biologique, par exemple, donc il a une ferme avec des cochons qui courent dans l'herbe et qui s'amusent avec les petits lapins. Vous vous débrouillez pour faire jeûner les cochons pendant une semaine. Ah, ils deviennent fous.
Ils ont très faim.
Et ils ont très faim. Et là, vous leur filez le cadavre et ils bouffent tout.
Ah oui.
Sauf les dents en or. Donc, il faut arracher les dents en or.
Et qui se charge de cette tâche d'argent?
Ah, non, mais là, vous faites comme Dominique, vous mettez ça dans un roman. Ben oui. Ou alors, sur scène, le théâtre. Alors, le problème, c'est un peu compliqué d'avoir 3-4 cochons sur scène pour raconter l'histoire, mais...
Oui, ça me semble un peu délicat, ça.
Oui. Bon, écoutez, vous me posez des questions, je vous réponds.
Oui, voilà. je fais ce que je peux. Hein.
Oui.
Alors, dites-moi, vous êtes metteur en scène de théâtre, si j'ai bien compris, pour du théâtre professionnel ou du théâtre amateur?
Ah, y a-t-il une différence entre professionnel et amateur? Est-ce que la différence, est-ce que c'est là où on s'ennuie ou on ne s'ennuie pas?
Ça, je pense
est-ce pas, qu'on s'endort ou on ne s'endort pas? Même fatigué,
on peut s'endormir
au théâtre.
Au théâtre amateur, au théâtre professionnel aussi.
Voilà. Oui.
Moi, pour ma part, je me suis endormie plusieurs fois à dans des théâtres.
Mais écoutez,
je ne nommerai pas. Hein.
Oui, non, mais vous êtes critique de théâtre, Ambroise. Hein, vous êtes en tant que journaliste.
Enfin, peut-être, oui, un petit peu.
Non, mais
peu,
moi, en tant que metteuse en scène, je rêverais de mettre des petits micros cachés dans la salle. Et quand on décèle qu'un spectateur, parce que ça se voit sur scène, vous êtes en train de faire votre tirade...
Des caméras cachées. Hein.
Ah non. Des micros. Parce que du coup, le gars qui ronfle,
ah oui,
on va le passer sur scène en bruit de fond et tout. Et moi, ce que j'adore...
Mais vous ne pensez pas que ça peut polluer le texte des comédiens?
Ah ben, justement, ils sont obligés d'improviser. C'est formidable. Alors, dans Shakespeare, c'est compliqué, mais dans d'autres pièces, ça peut être pas mal du tout. Et à ce moment-là... par exemple, avoir des complices dans la salle, des spectateurs, ils laissent leur téléphone portable allumé et en coulisses, on appelle le spectateur et son téléphone sonne. Donc tout le monde a un regard courroucé vers le spectateur et vous, sur scène, vous faites comme si de rien n'était, vous continuez et puis... d'habitude, les gens prennent leur téléphone, ils ne savent pas comment l'arrêter, donc ça continue à sonner, tout le monde le regarde, et en fait, le spectacle se déplace parmi les spectateurs. Le spectacle est dans un... Et donc, moi, en tant que comédienne, je fais « Allô, oui ? Allô, ça va ?» Et à ce moment-là, on met le haut-parleur, parce que les spectateurs n'ont pas encore compris que c'était de la triche, et vous avez la réponse. Et donc, le héros que vous étiez en train d'interpeller... Eh bien, il répond au téléphone et après, il arrive côté court et il fait son numéro.
Ah qu'est-ce oui. que vous... Ça me semble un petit peu compliqué, votre explication, là. Je m'y perds. Hein. Franchement, en tant qu'Ambroise Perrin, je m'y perds.
Oui, mais les critiques de théâtre, souvent, ils aiment bien que ce soit un peu tordu, comme ça, non?
J'aime pas trop quand c'est tordu, moi.
Non?
Non.
Vous préférez quand c'est droit?
Pas tout à fait, presque un petit peu rectiligne quand même.
Oui, ça me fait penser à un spectacle que je voulais faire sur Mitterrand.
Mm-hmm.
Et Mitterrand disait « J'ai deux avocats. J'ai Badinter pour le droit et j'ai Roland Dumas pour le tordu. »
Il avait deux amours, en fait.
C'était rigolo. J'ai deux amours.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, c'est oui. Ça. Voilà, alors j'ai deux amours, le théâtre et l'anesthésie. Et anesthésie, l'amour, non, c'est Anastasie, l'amour.
Anesthésie, oui.
T'ennuie, enfin, c'est une chanson mm-hmm. rigolote. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter?
Oui, qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Parlez-nous de vous, votre personnalité.
Alors, moi, j'aime bien me promener en ville.
Oui.
Et pour revoir mes patients.
Et vous avez l'occasion de rencontrer vos patients en ville.
Alors, ils se promènent.
C'est qu'ils ne sont pas morts, alors.
Ils ne sont pas morts. Oui. Non, c'est ceux que j'ai endormis.
Alors, vous étiez une bonne anesthésiste, alors.
Ah
si
oui,
je comprends bien.
Puisqu'ils se réveillent après.
Ah oui, voilà. Oui, ça c'est l'essentiel.
Mais c'est assez rigolo parce que moi, je les connais parce que pendant tout l'opération, ça dure 20 minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures. Je les vois, je surveille leur visage, les yeux, je vois les appareils. Et donc, j'ai leur dossier médical avec des photos. Donc, je les connais, j'apprends à les connaître. Puis, c'est quand même très tendu. Hein, dans un bloc opératoire, c'est quand même...
Ah oui.
on rigole pas. Hein, ça,
moi, je pensais qu'on s'abusait dans les blocs opératoires.
Ça, c'est du... C'est au cinéma ou au théâtre.
Ah,
hein. Non.
Dans MASH.
Oui, ah, oui. Oui, mais là, le Vietnam, là, il est à Strasbourg, il est différent. Alors, moi, je connais bien mes patients, mais les patients, eux, ils m'ont vu, disons, 3 secondes.
Hein. Mais vous ne faisiez pas de consultation d'anesthésie?
Oui, mais ils ne font pas la corrélation entre la consultation avant, où on leur pose tous les trucs pour que si jamais ils claquent en cours de route, les assurances nous remboursent et qu'on ne soit pas ennuyé et tout. Les antécédents, votre grand-père, est-ce que vous buvez beaucoup? Ils vous disent non. Est-ce que vous fumez? Pas du tout. Et ils font 3 paquets de cigarettes par jour. Oui, donc on fait une consultation avant. Mais après, on les met sur le billard et moi je m'approche et je dis, voilà, vous allez compter... 10, 9, 8, 7, 6, et à 5, ils sont endormis et tout, et ils sont dans le coltard. Et ils m'ont vu, en fait, pendant 4 secondes, penchés sur eux.
Mmh.
Et c'est la seule image qui leur reste.
Mais vous avez de très beaux yeux, c'est sûrement très bien.
Merci.
La dernière image doit être formidable. Hein.
Oui, mon mari me le dit aussi, que j'ai rencontré d'ailleurs au théâtre. Tu as de beaux yeux, tu sais, il m'avait dit, et ça a marché.
Ah oui.
Voilà. Alors, il voulait... en fait, mon mari m'a dragué parce qu'il voulait un rôle super, super important, soit faire un one-man show, soit jouer Macbeth aussi, ou d'autres choses. Et franchement, c'est un mari formidable. Il fait la cuisine, il range la voiture, il fait la vaisselle, il est sympa. Enfin,
vous avez de la chance.
Oui, mais ça existe encore. Hein, BPM, bon petit mari.
Oui.
Hein, voilà. Mais,
quelle belle formule.
Le problème, oui. Moi, j'en ai une autre aussi, parce que j'ai eu des enfants. Hein, c'était PMC.
C'est-à-dire
Petite maman chérie.
Oh, comme c'est mignon.
Voilà, alors si ma fille m'écoute, c'est maman qui te parle et tout. Mais et donc, mon mari était mauvais en théâtre. C'était une catastrophe. Alors, j'ai monté une année la cantatrice chauve de Ionesco, et il y a un rôle où on dit simplement « Garde Jonas » de la deuxième compagnie, c'est tout.
Et là, il était excellent.
Et encore, il fallait le souffleur.
Ah oui, d'accord.
Mais comme il est grand et beau, il faisait un très bon garde et tout. Mm-hmm. Et alors, quand même, comme il était en train de me draguer et que moi, je n'étais pas insensible à ses charmes, je laissais le garde tout le temps sur scène. Comme il y a le pompier derrière le rideau, et le garde, il était tout le temps là. On ne savait pas très bien quand Antigone venait
et tout ça.
Mais le garde était là parce qu'il faisait partie du décor.
Vous êtes une petite maline, vous. Hein?
Ah oui.
Vraiment.
Oui.
J'admire beaucoup votre splendeur, votre...
Écoutez, il faut venir me voir dans mes pièces de théâtre.
Est-ce que vous serez sur scène, cette fois?
Alors, je ne suis pas sur scène, mais j'y vais quand même un petit peu de temps en temps. En fait, je connais tous les rôles. Donc, quand il y a un remplacement à faire, j'adore ça, quelqu'un qui casse
à la dernière minute,
son vélo et tout, je vais sur scène et... les spectateurs comprennent très bien qu'on ne peut pas leur dire, ben voilà, il y a une machine qui, voilà,
elle ne peut pas venir ce soir.
Et donc, je la remplace au pied levé.
Les hommes aussi vont remplacer?
Ah, les hommes aussi.
Ah oui, d'accord.
Et alors,
oui.
Si le rôle est quand même un petit peu complexe ou parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans son costume ou quoi que ce soit, je joue le rôle avec le script, le livret à la main, sur scène.
Ah, oui.
Et je prends une voix neutre et je joue le rôle. Et je peux vous dire que c'est moi qu'on applaudit le plus.
Ah,
parce
très
que,
bien, oui.
C'est toujours... C'est comme... Vous savez, sur scène, vous vous plantez. Mais vraiment, le trou de mémoire.
Donc, oui, ça vous est déjà arrivé?
Alors, vous avez votre collègue qui est sur scène pendant votre tirade, qui se retourne dos au public et qui vous souffle. Bon, vous ne comprenez pas. Vous faites... Vous répétez la phrase d'avant en faisant « Oh, mais c'est quoi la suite ?» Vous ne trouvez pas. Dans les coulisses, tout le monde... vous souffle, la maquilleuse vous souffle, le public sur scène vous souffle et vous ne trouvez pas. Et enfin, vous trouvez la phrase.
Ça doit être terriblement angoissant, ça, pour
pas
vous.
Pas du tout. Vous sortez la phrase et c'est la standing ovation. Vous êtes devenu un acteur humain. C'est formidable.
Ah, quelle chance.
Moi, j'adore
donc,
le théâtre.
Donc, il faut se tromper dans le texte.
Alors, on peut faire exprès une pièce où on se trompe tout le temps.
Tout le temps, oui.
Voilà. Il y a des émissions de radio comme ça.
Ça vous est déjà arrivé?
Je connais une émission de radio que j'aime beaucoup qui s'appelle Vous l'avez bien connu, où on commence à parler d'un truc et on parle de tout à fait autre chose.
C'est ça, oui.
Et en fait, les gens, on ne sait pas
qui c'est. C'est pas de la mienne dont vous parlez, là?
Absolument. Cher Ambroise, j'adore votre émission. Voilà.
Ah, mais merci beaucoup.
Voilà.
Chère Catherine.
Que voulez-vous savoir encore de mes activités diverses?
Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme activités diverses? Vous ne m'avez pas raconté encore.
Je vous ai parlé de l'Académie Rhénane, qui est une association qui est très européenne, qui réunit des gens qui ont des valeurs, des passions, qui font se rencontrer des gens intéressants.
Donc
c'est le but, c'est la rencontre.
Et vous faites vous-même partie de cette académie?
Ah, je fais partie de cette académie. Alors je n'ai pas un habit d'académicienne, je n'ai pas de...
C'est dommage.
Je n'ai pas l'épée.
Ah oui.
J'ai la paix.
Ah oui, ça c'est
pas
mal.
Parce que pendant ce temps-là, mon mari reste à la maison, donc effectivement j'ai la paix. Mais autrement, moi je suis la secrétaire générale, donc c'est quand même un truc assez important.
Oui, c'est un rôle important.
Donc je souffle à l'oreille du président, et puis on trouve des idées un peu farfelues, on recrute de nouveaux membres qui sont souvent un peu tordus, donc c'est très très bien. Et on fait des conférences, on fait des bons repas, on fait des voyages, on fait des trucs très érudits, c'est intéressant.
Et vous faites partie d'une autre association, il me semble que je...
Alors oui, c'est la Société
des Amis des Arts, oui.
Voilà, la Société des Amis des Arts de
Et
Strasbourg.
Et vous faites quoi dans cette association?
Alors là, j'organise des voyages.
Oui.
Voilà. Alors, on a fait un voyage à Niederschäffolsheim.
C'est une ville artistique très connue.
C'est avant la traversée de la forêt de Haguenau. Parce que vous savez que si vous traversez la forêt de Haguenau, après vous êtes au sud de la Finlande. Les Strasbourgeois ne connaissent pas le nord de l'Alsace, Wissembourg, quelle belle ville.
Je suis de là-bas.
Vous êtes de Schlaital, je crois.
Oui, je suis de ce coin-là.
À Schlaital, c'est là où il y a un élevage Schweizer de porcs biologiques.
Ah, d'accord. Oui,
il leur met en musique... France Culture et France Musique.
Mais vous m'apprenez quelque chose, pourtant je suis de la région,
de
je ne savais pas.
Il faut aller se promener, promenez-vous dans les bois.
D'accord.
Oui, oui. Et donc je fais toutes ces activités, mais je pense que, bon, si vous m'avez invité à la radio, bien sûr, c'est pour parler de la promotion de ma prochaine pièce de théâtre, Le Faiseur, de Balzac. Au Cube Noir, et je crois que...
Je crois que vous jouez dans une autre salle aussi avant.
Je ne sais plus, parce que ce n'est pas moi qui m'occupe. Oui, il y a le point d'eau, voilà, et tout. Et puis alors, on voulait jouer aussi...
À Haguenau, on m'a dit que vous alliez jouer à Haguenau.
À Haguenau, au Grand Théâtre Municipal, magnifique bâtiment en grès rose.
Très beau, oui.
Voilà, et c'est les mêmes pierres que celles de la cathédrale de Strasbourg.
Ah
non,
bon,
c'est pas vrai, non.
Non, vous racontez n'importe quoi,
oui,
Ambroise.
Oui, c'est pas grave, oui. Mais c'est quelque chose de rigolo, oui, oui. Puis on va peut-être jouer sur la place Golbery.
Ah, ça, c'est une très bonne
idée.
On va
monter un petit chapiteau et tout. Et vous savez pourquoi la place Golbery ? Parce que c'est pas loin de la pâtisserie de la rue Gaillère. Vous savez que dans notre émission, on fait souvent un peu une promotion. Et Ambroise, je vous écoute à chaque fois. Et je sais que vous parlez de la tarte au fromage.
Tarte au fromage, oui.
Bah oui.
Très réputée de cette pâtisserie.
Ça. Alors, j'espère qu'un jour, ils sponsoriseront notre émission de radio, parce qu'on pourrait manger de la tarte au fromage à la radio.
Mais je peux leur en parler, si vous voulez.
Bah,
hein.
Voilà.
Oui.
Oui, c'est bien.
Oui.
Et puis, vous pourriez faire un entracte dans la pièce.
Hein, avec consommation de tarte au fromage.
Avec des tartes au fromage, voilà. Et donc la boucle serait bouclée. Et alors avec un petit stand aussi où on vendrait des livres des polars alsaciens, par exemple.
Bah, exactement, c'est une très très bonne idée.
C'est une bonne idée.
Vous avez vraiment de bonnes idées, Catherine Besançon. Hein.
Bah, écoutez, mon travail, vous savez, quand les gens dorment, parce que je les endors, je me dis... vivre, parce que eux, c'est comme, ils sont dans le noir, hein, comme on dit, dans le cirage. Je me dis, c'est vivre la nuit, dormir la vie, qui est une jolie formule. Et puis, je les regarde dormir. Donc, mon imagination flotte un petit peu comme les nuages qui font tellement peur maintenant aux scientifiques à cause du réchauffement climatique. Et je m'invente des histoires. Alors, il faut quand même que je sois un petit peu attentif, parce que de temps en temps...
Oui,
il faut...
parce que la vie des gens est quand même entre vos mains.
Il faut les réveiller.
Oui, et puis quand même, il faut les réveiller.
Le chirurgien qui les découpe, quand il dit « Allez, c'est fini », il dit à son assistant « Tu remballes, tu refermes, tu fais les trucs et tout », à ce moment-là, on me donne un petit coup de coude et puis...
Vous vous réveillez.
Je diminue la dose et puis je surveille que mon patient se réveille bien. C'est comme à la fin d'un roman policier.
Et vous pouvez apprendre vos textes aussi pendant l'anesthésie.
Alors, j'apprends, exactement.
Oui, oui,
oui, j'ai un prompteur, je lis les textes pendant la pièce. Et puis, donc je disais, à la fin d'un roman policier, il faut réveiller le lecteur.
Il ne faut pas réveiller le mort. Hein.
Non, mais alors, y a plusieurs solutions. Parce que si à la fin, l'assassin, vous le pendez, c'est pas... Bon, c'est bien et tout. Mais si vous rêvez d'une adaptation cinématographique de, par exemple, L'Or du Rhin, et que vous pendez votre assassin à la fin, le spectateur, il continue à ronfler. Mais, si vous le fusillez...
Ça fait du bruit.
Pan, 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 pan.
Ah oui, oui, oui. Très bonne idée.
Là, on réveille le spectateur, et on réveille le lecteur, et c'est sur ces bruits de fusil qu'on peut terminer l'émission. C'était l'épisode numéro 47 de « Vous l'avez bien connu !»« À moi, les bellâtres du théâtre !» avec aujourd'hui Catherine Besançon. « Vous l'avez bien connu !» tous les mardis à 11h30, rediffusion le dimanche à midi. Aujourd'hui à la technique Lucas Bringout. Et mon nom est... Ambroise Perrin !»